au 14 juin, l'Hôpital Nord fête ses 50 ans. Au programme, animations, conférences, expos photos, forum des associations, concerts et spectacles gratuits. Sur l'antenne de Radio Grenouille, on vous donne rendez-vous le jeudi 11 juin pour écouter paroles de soignants et de soignés, témoignages et émissions autour de la santé. Plus d'infos sur ap-hm.fr et sur radiogrenouille.com.
L'hôpital, c'est le lieu où l'on soigne, où l'on accueille les malades, sans distinction d'âge, de situation sociale ou d'origine. C'est le lieu où la solidarité s'exerce à plein temps, parfois à mi-temps, parfois à quart-temps, c'est selon. Cette semaine, nous fêtons un anniversaire, le 50e, d'une structure emblématique de Marseille, surplombant la Sète, le Vallon, la Bigotte ou encore Saint-Antoine, avec une vue imparable sur la Bonne Mer. L'hôpital Nord, partie intégrante de l'APHM, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, est en perpétuelle mutation, n'a parfois pas bonne presse dans les médias nationaux, comme la plupart des hôpitaux d'ailleurs, mais reste une structure qui réalise chaque année 39 000 admissions et 29 000 séances d'hospitalisation par jour, qui compte 44 services de soins, 26 services administratifs, techniques et logistiques pour 403 médecins, 3200 agents hospitaliers, dont 75% de personnel soignant. 50 ans pour une structure vouée à l'éternité, c'est un bon début. Et durant 7 heures sur Radio Grenouille, nous entendrons des voix des personnels de l'hôpital qui nous raconteront leur quotidien de nordiste et leur imbrication dans le quotidien des patients, comme des soignants d'ailleurs. Et avec nos invités dans le studio de Radio Grenouille, nous nous questionnerons autour des 50 ans passés, mais aussi des 50 ans à venir. Nous avons le plaisir d'accueillir Gilles Halimi, directeur de l'Hôpital Nord, et Nadia Touami, pardon, aumônière musulmane et animatrice d'ateliers d'écriture au sein de l'hôpital. Mais juste avant de leur donner la parole sur Radio Grenouille, replongeons-nous en 1965, date à laquelle l'architecte René Eger terminait son ouvrage, tout un symbole plein de modernité.
millions en 1955, les Français sont aujourd'hui 49 millions, alors que 1965 s'achève. En 1970, ils auront largement dépassé le cap des 50 millions. Dans le même temps, le cadre de leur vie se transformera comme jamais il ne l'a fait.
Le monde change rapidement. Et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que le changement apparaît maintenant aux Français, non pas comme l'abandon d'un passé, mais comme la construction d'un avenir. Et précisément, nos plans ont pour but d'aider à cette construction. On peut d'abord dire que le niveau de vie moyen des Français aura augmenté de 40 à 50%. Le deuxième trait significatif, c'est le développement des équipements collectifs. Il faut faire face à l'explosion scolaire, d'où la nécessité d'écoles, d'universités. Il faut construire des routes en face du parc croissant d'automobiles. Et là, cette catégorie d'investissement progressera de plus 125% pendant ces 10 ans. Cela veut donc dire qu'elle fera plus que doubler.
Le nouvel hôpital de Marseille Nord est un exemple des hôpitaux modernes qui poussent actuellement en France. Un simple numéro de téléphone et n'importe quel service, grâce à un réseau de conduits pneumatiques, peut obtenir en 15 secondes le médicament nécessaire. Mais la grande révolution hospitalière est ailleurs. L'utilisation notamment d'un circuit de télévision en couleur permet désormais d'intégrer en quelque sorte la faculté à l'hôpital, qui devient ainsi un centre de la science médicale appliquée.
Bonjour Gilles Halimi.
Bonjour.
Depuis combien de temps êtes-vous directeur de l'Hôpital Nord ?
Alors, je suis directeur de l'Hôpital Nord, enfin je suis... Pour être très clair sur le sujet, donc j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai eu un premier parcours à l'Hôpital Nord il y a une dizaine d'années, hein, de 1999 à 2005. Et j'en suis parti pour y revenir il y a exactement 3 ans. Donc effectivement, si on totalise les deux périodes, j'assume ces fonctions de directeur depuis une dizaine d'années maintenant. Oui.
Petite question un peu naïve pour commencer cette émission. Qu'est-ce que ça fait d'être directeur d'un hôpital aussi imposant que l'Hôpital Nord ?
Écoutez, c'est une grande fierté à tout point de vue. D'abord parce que c'est un grand hôpital, par la taille et par la nature des services qui s'y trouvent, dans le sens où on prend en charge des patients sur des spécialités médicales et chirurgicales qui sont de haute valeur et de haute tenue, Donc c'est une première fierté, et c'est une deuxième fierté dans le sens où c'est un hôpital qui, de par sa position géographique, sa position dans les quartiers nord, où par ailleurs les services publics sont peu présents, c'est une deuxième fierté parce qu'on sait pertinemment que c'est un hôpital sur lequel on peut compter 24 heures sur 24, et de ce fait-là, donc, il répondra à toute demande de soins de la part de la population, quelle qu'en soit la nature, que ce soit pour des besoins de proximité d'urgence ou des besoins un peu plus complexes en matière de santé.
Un patient sur trois, effectivement, est originaire des quartiers nord. Un patient sur trois de l'hôpital nord. On écoutait dans le petit son cette archive de l'INA, la construction de l'hôpital. Elle faisait partie d'un grand plan d'ensemble au niveau national. Mais il y avait ce côté déjà, et on va y revenir un peu plus tard, ce côté déjà de modernité dans la volonté de la mise en place de cet hôpital. Une petite anecdote également dont je n'ai pas réussi à trouver trace sonore, c'était qu'à l'époque, en 1965, une des plus grandes avancées était que tous les patients dans leur chambre disposaient d'une radio.
C'est vrai qu'avec le recul, on pourrait penser que ces technologies qui ont vu le jour dans ces années-là, aujourd'hui, peuvent paraître dérisoires et anodines. Et pourtant, replacées dans le contexte de l'époque, il s'agissait effectivement de technologies tout à fait révolutionnaires. Et je pense que l'hôpital par lui-même était, il y a 50 ans, une révolution à tout point de vue. D'abord, ça a été dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais je crois sur le grand bassin sud-est du territoire français, une révolution dans le sens où c'était le premier bâtiment hospitalier moderne et répondant donc à des normes architecturales proches de ce que l'on faisait de mieux dans les autres hôpitaux européens. Mmh. Il faut savoir que le profil moyen de l'hôpital des années 50, fin des années 50, début des années 60, était un hôpital de type pavillonnaire, siégeant dans des établissements de type hospice, avec pour chambre de grandes salles communes dans lesquelles cohabitaient des patients qui présentaient des pathologies indifférenciées. Et donc l'hôpital Nord est arrivé et a été érigé sur des normes un peu moins approximatives, un peu plus précise, avec de vrais architectes, avec déjà à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui des programmistes, avec des normes un peu plus précises qu'elles ne l'étaient auparavant, si bien qu'aujourd'hui on voit toujours debout un hôpital avec une architecture qui certes est tout à fait simple, mais ô combien fonctionnelle, et qui, en termes de consistance et de solidité, rivalise avec bon nombre d'établissements construits depuis une période beaucoup plus récente.
Mmh, on parle du pavillon du Mistral, le pavillon de l'Étoile, et également ce lien, comme on entendait dans l'archive, ce lien avec la faculté, très proche. Il en est où aujourd'hui ce lien? Il existe toujours, il est très fort, j'imagine.
Bien sûr. Bien sûr, l'hôpital Nord est d'abord et avant tout un CHU, c'est-à-dire qu'il assure à la fois des soins, mais également une mission de recherche et d'enseignement qui est assurée par la faculté qui est proche de l'hôpital, ce qui permet donc à cet ensemble hospitalo-universitaire de pouvoir appréhender la médecine sous un angle beaucoup plus riche, beaucoup plus diversifié.
Mmh. Combien d'internes, combien d'externes à l'hôpital Nord?
Alors on a à l'hôpital Nord 420 médecins, et 250 internes étudiants hospitaliers.
Mmh. On peut parler aussi des services qui sont, je ne sais pas comment on le dit, proposés par l'hôpital, disponibles à l'hôpital, réalisés par l'hôpital, comment ça se dit? Comme la cancérologie, l'accueil des polytraumes.
Tout à fait. Bon, l'hôpital Nord présente la caractéristique, comme d'autres hôpitaux à Marseille, d'être thématisé, dans le sens où, pour le qualifier, donc il est composé de services et de pôles d'activité clinique qui sont effectivement, qui émanent d'une spécialité médicale et chirurgicale particulière. Bon, s'il fallait caractériser l'hôpital Nord, on pourrait dire d'abord et avant tout que c'est un hôpital qui est spécialisé dans l'accueil des patients polytraumatisés. C'est d'ailleurs le seul dans la région qui prend en charge ce type de pathologie, à savoir que une personne atteinte de traumatismes divers suite à un accident de la route, est profondément atteinte et dont l'état de santé nécessite de devoir prendre bénéficier d'une prise en charge qui soit diversifiée, passant par divers services que sont la réanimation, que sont les services de traumatologie, ce patient-là n'ira qu'à l'hôpital Nord. Mmh. Hein, et s'il devait arriver dans un autre établissement, cet autre établissement nous le réorienterait de manière tout à fait directe. Donc c'est une première spécialité qui caractérise aujourd'hui l'hôpital Nord dans la prise en charge des patients au niveau régional, mais il en va également d'autres spécialités qui aujourd'hui caractérisent notre établissement. C'est la cancérologie, ce sont les maladies infectieuses, c'est la périnatalité, à savoir l'accueil des mamans qui viennent accoucher mais qui risquent de présenter un problème de complication au niveau de leur accouchement et que seul l'hôpital Nord comme l'hôpital de la Conception peuvent prendre en charge. Voilà, donc un certain nombre de spécialités médicales et chirurgicales qui se sont installées à l'hôpital Nord de façon progressive et graduelle, si bien qu'aujourd'hui, l'hôpital Nord est un établissement qui couvre à peu près, à l'exception de la chirurgie cardiaque, qui couvre l'éventail de toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Mmh. Situé dans un contexte géographique qui est très particulier, puisque dans le bassin de population que l'hôpital dessert, c'est le seul établissement à pouvoir assurer une offre de services publics 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Mmh. Pour parler de manière différente, tout en expliquant la même problématique, l'hôpital Nord n'a pas de concurrence autour de lui, si ce n'est à quelques kilomètres l'hôpital européen, qui lui est davantage tourné vers le nord du centre-ville, plus précisément. Mais s'agissant des quartiers nord jusqu'à l'orée des pays d'Aix, l'hôpital Nord est le seul établissement hospitalier public à pouvoir donc assurer une offre de soins de proximité et une offre de soins de recours et de référence.
C'est exactement, merci pour la transition, monsieur Halimi. Une autre spécificité de l'hôpital Nord, c'est cet esprit que j'ai pu ressentir en allant me balader, en allant entendre quelques micros et en rencontrant quelques membres du personnel. Je vous propose d'écouter Nicole Tabet, qui est surveillante chef, cadre supérieur, pardon. C'était l'ancienne dénomination, c'est ça? Cadre supérieur en charge de la gestion de séjour qui est là depuis, oula, fort longtemps à l'hôpital Nord, c'est comme ça qu'elle me l'a présenté. Et elle a répondu au micro de Radio Grenouille à la question simple, qu'est-ce que ça signifie l'hôpital Nord ?
L'hôpital Nord, c'est un endroit un petit peu particulier. Alors les nordistes vous diront que c'est un endroit particulier, c'est un endroit où on est un petit peu plus solidaire peut-être, où on se dit bonjour le matin. C'est important pour nous. Où on a des grosses engueulades bagnolesques, mais où il y a une ambiance où les gens, tout d'un coup, vont se démener pour cet établissement parce que c'est un établissement qu'on aime bien. En plus, on a la plus belle vue de Marseille, quand même. Hein. Je n'oserais pas parler des autres établissements, mais nous, on a une très belle vue. On voit la bonne mère. Donc, quand il se passe des problèmes, tout simplement, on regarde la bonne mère, tout va mieux. Et puis non, c'est vrai qu'on est un petit peu excentré par rapport à la ville. On est beaucoup à habiter un petit peu dans les quartiers, qu'on peut appeler les quartiers nord, mais aussi du côté de Gardanne, Trets, Pourrières, Aix, tous les temps de Berre. Donc on n'est pas forcément des gens qui sont uniquement dans la ville. On arrive un petit peu de tous ces endroits. On prend l'autoroute Nord et on arrive chez nous à l'hôpital. Chez nous à l'hôpital, on n'est pas à l'hôpital chez nous, mais presque. Je pense que notre isolement par rapport à l'administration centrale de la rue Brochier, pas forcément notre isolement, mais notre éloignement, disons. Notre éloignement par rapport à l'administration centrale fait qu'effectivement, on s'est rapproché, qu'il y a une vraie histoire à l'hôpital Nord, qu'il y a des vraies histoires entre les gens, qu'on a fait beaucoup de choses, qu'on a fait beaucoup de fêtes, qu'on aime bien ça. Voilà, on est un établissement où effectivement les gens se connaissent. Avant, on avait une cuisine qui appartenait à l'hôpital Nord, on avait une blanchisserie à l'hôpital Nord, on avait notre magasin nordiste. Aujourd'hui, on est avec la PFL. Donc tout ça, ça a changé. Qu'est-ce qui a changé? Moi, je suis quand même passée des seringues en verre aux seringues en plastique et à l'usage unique. En 30 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous viendrez sûrement à la fête de l'hôpital Nord. Vous allez voir ce qui se passait en 1964 dans l'hôpital Nord, même si c'était un hôpital ultra moderne à l'époque. On est vraiment dans des processus très différents. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui se maintient en tous les cas, allez, c'est quand même cette envie de vivre ensemble. À l'hôpital Nord, que ce soit les personnels, les malades, on est très, très différents les uns des autres. Mmh. Et pourtant, on cohabite. Je pense qu'on est encore... D'abord, on a beaucoup de personnel qui habite, je vous l'ai dit, autour de l'hôpital. Je pense que cette mixité ici à l'hôpital Nord, elle favorise le dialogue entre nous. Vous allez rencontrer l'aumônière, tous les aumôniers, qu'ils soient catholiques, protestants, musulmans, les juifs, tout le monde arrive. Pour nous, c'est un... Alors, voilà, vous me disiez qu'est-ce qui a changé. C'était un débat qu'on n'avait pas il y a quelques années. C'est une réalité. En tous les cas, c'est vrai que dans les années 80, on était plus à se préoccuper des débats droite-gauche, machin, enfin... qui avait tort, qui avait raison à l'époque. Aujourd'hui, on est sur un autre débat de société. Et puis dans 10 ans, on sera sur autre chose en tous les cas. Mais alors, à Nord, on continue à se parler. Ça permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe. Parce que c'est vrai que parfois, on ne comprend pas toujours. Donc, cette proximité fait qu'à un moment donné, on peut aller leur poser des questions. C'est vraiment spécifique à Nord. C'est spécifique à Nord parce que il y a des débats qu'on n'exclura pas ici. Alors après, nous, on a développé une mentalité de nordiste un peu paranoïaque, mais c'est vrai que quand même, si on nous mettait un peu le métro, ça serait quand même bien. Si on voulait faire quelque chose pour l'hôpital Nord. Mais si on regarde quand même bien, l'hôpital Nord, là, de ces 15 dernières années, je veux dire, on a créé cette maternité de niveau 3. C'est là où on va recevoir toutes les mamans qui ont des problématiques graves de tous les territoires au nord de Marseille. C'est extraordinaire. On a créé... Donc le pavillon étoile, avec la chirurgie thoracique, avec tous les services de pneumologie, avec l'urologie, c'est des services de pointe. On a un robot à l'hôpital Nord, je ne sais pas si les gens le savent, on fait plein de choses. Cette semaine, ça va être aussi pour dire aux gens, mais on est un vrai hôpital, avec des vraies personnalités, des vrais médecins, et des gens très compétents. Et en plus, on a le sourire.
Et en plus, on a le sourire à l'hôpital Nord. Gilles Halimi, comment vous définiriez, vous voulez peut-être rebondir à ce que disait Nicole Tabet, qu'on vient d'entendre, et comment vous définiriez l'esprit nordiste?
Je pense que Nicole Tabet, dans des mots simples, est tout à fait charmant, donc a bien décrit la situation. C'est vrai qu'il y a un esprit nordiste. Alors cet esprit nordiste, il s'est construit de quelle façon? Je crois que on a essayé par cet esprit un peu particulier, un peu singulier, de proposer une antidote à l'enclavement de l'hôpital. Bon, chacun sait, chacun voit, chacun constate, chacun comprend que l'hôpital Nord, effectivement, est enclavé dans le sens, bon, certes, il n'est pas perdu loin du monde. Ceci étant, avec une desserte en transport en commun qui est relativement aléatoire, même si elle existe, avec des difficultés liées au trafic automobile sur l'autoroute. Bon, l'hôpital Nord est enclavé, de ce fait-là, donc, il présente quelques difficultés par rapport à d'autres établissements qui sont mieux situés et mieux desservis. Bon. Cet enclavement, quelque part, et cet éloignement de l'hôpital du centre-ville a créé un esprit. Alors, non pas, comme d'aucuns disent, un esprit qui est pétri autour d'une forme d'insularité ou une forme de sécessionnisme, pas du tout. Là n'est pas le propos, là n'est pas le problème. Mais disons que cet éloignement, cet enclavement, a créé une espèce d'esprit de combativité. Étant entendu que l'hôpital Nord, bon, après la phase de prospérité liée à sa construction et cependant à la dizaine d'années qui a suivi donc l'inauguration de l'hôpital, bon, l'hôpital Nord a vécu sur une rente de situation associée au fait qu'il a bénéficié à l'époque de technologies importantes et ô combien modernes. Ensuite, s'en est suivi une longue période de vache maigre pendant laquelle l'hôpital Nord n'a pas été très avantagé en matière de personnel, en matière de technologie médicale, en matière de démographie médicale. Et ces 25 années durant lesquelles, oui, au moins 25 années, durant lesquelles bon, l'hôpital Nord s'est cru défavorisé, a créé un espèce d'esprit bâti autour de la combativité, à savoir la plupart des gens, hein, qu'il s'agissait de médecins à l'époque ou qu'il s'agissait de personnel ou de cadre administratif, ont fini par dire, puisqu'on n'est pas écouté, puisqu'on n'est que moyennement compris, on va se battre, au sens plein et au sens positif du terme, à savoir qu'il faut que nous argumentions pour expliquer que les quartiers nord méritent autre chose que ce qui nous est aujourd'hui accordé. Donc ça crée un esprit nordiste qui s'est pétri, qui s'est construit autour de la combativité, autour d'un certain esprit de résistance, d'un certain esprit... voilà, je pense que le terme de combativité permet de bien résumer la situation. Donc il ne s'agissait pas, bien évidemment pas, ce qui aurait été complètement stérile, de se battre pour le plaisir de se battre, mais que le combat qui a été mené durant ces périodes allant de 1975 au début des années 90, donc je parlais de 25 ans, c'est plutôt 15 ans, hein, disons 15 à 20 ans, il s'est agi durant toute cette période de pouvoir expliquer et argumenter pour... faire émerger les bons dossiers, pour faire émerger toute une série de travaux et d'équipements dont on avait besoin à l'époque, pour permettre à l'hôpital de bien réaliser sa mission. Donc, voilà, c'est en quelque sorte un esprit de combativité, un esprit de résistance, bâti autour d'une volonté d'argumenter une situation qui méritait d'être améliorée à l'époque, que s'est construit en quelque sorte cet esprit. Et aujourd'hui, on peut dire que le retard... C'est bien rattrapé, hein, puisque depuis maintenant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, dirons-nous, depuis 1995, de nouveaux bâtiments se sont érigés. La maternité de niveau 3, un bâtiment accueillant les maladies infectieuses tropicales, un bâtiment accueillant les détenus emprisonnés dans les maisons d'arrêt qui ont besoin, bien évidemment, d'être pris en charge, d'être hospitalisés. Notre dernier fleuron avec le bâtiment étoile, inauguré il y a 5 ans de cela, qui a permis de pouvoir reloger en son sein tout le plateau technique. Donc on peut dire que le retard a été rattrapé, mais que l'esprit demeure. Hein, un esprit qu'on pourrait qualifier de communautaire. Hein, sans être péjoratif à l'égard de nos amis de la Timone, autant l'hôpital de la Timone est un bâtiment qui est réputé pour être industriel, situé en milieu urbain. L'hôpital Nord est plutôt un hôpital communautaire situé dans un milieu ex-rural, bon, qui est beaucoup moins rural qu'il ne l'était dans les années 50, mais cet esprit de ruralité, cet esprit bucolique, tant au niveau de l'environnement qu'au niveau de l'esprit qui préside un peu les comportements de l'établissement, cet esprit demeure. Et je pense que les gens qui le composent, les personnels qui le composent, que ce soit les médecins, que ce soit les agents, restent en quelque sorte habités par cet esprit-là. Et cet esprit-là nous permet toujours de continuer et d'aller de l'avant. Donc aujourd'hui, effectivement, grâce à cet anniversaire, qui pour nous, certes, revêt les formes d'une fête au sens le plus convivial du terme, c'est à la fois pour nous un trait d'union entre le passé et l'avenir que l'on souhaite le plus prometteur possible.
Mais justement, l'avenir, Gilles Halimi, Nicole Tabet parlait du métro, on parle souvent des transports, comme souvent d'ailleurs à Marseille. Les 50 ans passés, je l'ai dit, c'est bien, c'est beau. Les 50 ans à venir de l'Hôpital Nord.
Et écoutez, on espère qu'effectivement, sur toute une série de sujets, l'Hôpital Nord pourra avancer. Je pense que le principal problème qui aujourd'hui peut nuire tant au niveau de l'hôpital qu'au niveau des personnes qui nous fréquentent, je pense aux usagers, et qui nous font confiance, le principal problème reste toujours le problème de l'enclavement. Donc il est important aujourd'hui de pouvoir permettre à l'hôpital, et surtout aux personnes qui viennent jusqu'à nous, de leur donner des moyens de transport qui soient les plus adaptés possibles. Et de ce point de vue-là, il est important qu'un message puisse être passé au niveau des transports en commun et de leur amélioration.
Nous revenons en direct sur Radio Grenouille pour fêter les 50 ans de l'Hôpital Nord avec Gilles Halimi et Nadia Touami, avec Léo Ferré, Le Soleil.
Les persiennes abritent des secrètes luxures quand le soleil cruel frappe à traits redoublés sur la ville et les champs, sur les toits et les blés. Je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime, flairant dans tous les coins les hasards de la rime, trébuchant sur les mots comme sur les pavés, heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés. Ce père nourricier, ennemi des chloroses, éveille dans les champs les vers comme les roses. Il fait s'évaporer les soucis vers le ciel et remplit les cerveaux et les ruches de miel. C'est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles et les rengais et doux comme des jeunes filles, et commande au moins sous de croître et de mûrir dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir. Quand ainsi qu'un poète, il descend dans les villes, il en oublie le sort des choses les plus viles, et s'introduit en roi, sans bruit et sans balai, dans tous les hôpitaux et dans tous.
Léo Ferré chante Le Soleil, un texte de Charles Baudelaire que j'ai choisi un peu pour vous, monsieur Halimi, quand j'ai remarqué que vous étiez un amateur du grand Léo Ferré. On parlait de l'Hôpital Nord et de tout ce qui se passe dans son quotidien. Je l'ai dit en introduction et j'ai vraiment pas envie non plus de m'arrêter là-dessus. L'Hôpital Nord n'a vraiment pas bonne presse. On en parle souvent dans les médias nationaux quand il se passe quelque chose de grave, car il se passe toujours quelque chose de grave quelque part, et souvent aussi dans les quartiers nord. Mais il se passe des choses au quotidien. Comme vous l'avez dit, monsieur Halimi, un hôpital, l'Hôpital Nord, il est ouvert 365 jours par an, 24 heures sur 24. Il s'en passe place, de belles et des choses agréables. Le 12 mai dernier, un micro de Radio Grenouille, par le biais de Julie Demuer, a consigné et a rencontré à l'occasion d'un marché paysan qui se tenait à l'hôpital Nord, et ben est allé à la rencontre des producteurs, des patients et des soignants qui se trouvaient dans le coin. C'est un extrait de ce son que vous pourrez retrouver en diffusion toute la journée sur Radio Grenouille dans le cadre de cette journée anniversaire des 50 ans de l'hôpital Nord, mais également sur internet www.radiogrenouille.com, direction le marché de l'hôpital Nord.
Des chèvres, des légumes, des tables, des parasols, c'est bien. On est où, quoi? On est où?
39 ans de boîte. La première fois que je vois ça, mais ça reste très très sympa.
Déjà, ça les dépayse un peu. Hein. Ça les dépayse un peu. Ils voient les biquettes, ils viennent à l'hôpital. Ça, je ne sais pas si pendant un petit cours essai, ça leur fait oublier un peu leurs soucis, quoi. Mais si c'est ça, c'est gagné, quoi. C'est déjà, on est arrivé à ça, c'est déjà gagné. Éric Prioré, chevrier à Septem et Levallo. J'ai un élevage de 84 chèvres du Rove et je fais la fabrication de fromage et de brousse dans les collines de l'hôpital Nord. Donc, on est sur nos terres là. Quoi.
Dans le terroir.
Complet. Complet. D'ailleurs, je crois que si je les lâche, ils vont rentrer à la maison toute seule. Là. Ils sont pas loin. Hein, donc,
Jusqu'à 19h, 20h.
Non, jusqu'à 14h, non. Moi, je suis de Saint-Antoine. J'ai un petit magasin, mais petit, minuscule. Faut pas le rater. Parce que tu l'auras, tu le regrettes. Je vends que des fruits et légumes. J'essaie de vendre que des fruits et légumes d'ici, c'est vrai, des environs. Quand il n'y en a pas, je fais de l'import. Mais sinon, j'essaie de toujours défendre ce qu'il y a d'ici, autour d'ici. Et c'est mon chef, le plus beau, le plus jeune, 60 ans. Le plus jeune, le plus beau. Je rajoute encore. Non. C'est bien. Je vous assure que c'est bon, c'est une bonne initiative. J'en suis content, non, sérieux.
Parcours de longs mois dans le sang Margot Lycéon. Il y a l'eau, il pensait, j'avais le cœur beau, en doublant les feux de Saint-Malo.
Je m'appelle Michel Boulet et je suis cofondateur d'une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, ou alors une AMAP. Le principe, c'est une cinquantaine de foyers, de familles, choisissent un producteur pour que ce producteur fournisse un panier de légumes à chacune de ces familles un jour de la semaine, toutes les semaines. Alors j'ai eu des malades qui passaient, et puis également du personnel. Je pense que vu le nombre de personnes qui travaillent ici, et vu également la tonalité positive que les AMAP peuvent avoir, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et jouable. Maintenant, il faudrait effectivement faire un peu de ce que je fais aujourd'hui, quoi, de la publicité, quoi, hein, pour dire bah, si c'est faisable, et voilà les avantages, voilà les contraintes aussi, hein, parce que une AMAP, c'est quand même une permanence hebdomadaire, donc ça réclame d'être là tous les jeudis. Pas pour nous, c'est tous les jeudis les distributions. Alors c'est un petit peu militant.
Bonjour, je suis anesthésiste réanimateur à l'hôpital Nord depuis 10 ans. Je suis partie 6 ans faire mon internat et mon clinica à Paris. Je suis redescendue à l'hôpital Nord. Tous les Parisiens me disaient, mais pourquoi tu redescends pas à la Timone? Mon hôpital de cœur, c'est l'hôpital Nord. On avait un slogan quand on était externe, hôpital Nord, hôpital fort. Ce marché, c'est un bijou. Il faut absolument qu'il revienne toutes les semaines. Vive l'hôpital Nord a 50 ans. Et moi, je suis très, très fière d'être dans cet hôpital. Et quoi qu'il en soit, je ne quitterai jamais le navire.
Tiens bon le cap et tiens bon le vent. Lycéo, Lycéo, Santillano. La mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco.
À refaire, je pense.
L'hôpital Nord, lieu de vie aussi, c'est ça. Bonjour Nadia Touami.
Bonjour à vous.
Bonjour. Ce genre d'exemple comme le marché, Gilles Halimi, vous pouvez évidemment vous exprimer dessus aussi. Mais ce genre d'exemple, ça fait partie aussi des, comme on va dire ça entre guillemets, les activités annexe complémentaire proposée par l'hôpital. Vous, Nadia Touami, vous êtes l'aumônière musulmane de l'hôpital Nord, mais vous animez également des ateliers d'écriture à destination des patients, mais également du personnel soignant et administratif.
Oui, c'est vrai, mais j'aimerais aussi rebondir sur ce que j'ai entendu.
Allez-y.
Et... Et c'est vrai que pour moi, l'hôpital Nord, ça reste un exemple en termes d'accueil, de qualité d'accueil et d'esprit d'équipe. Et bien que j'ai eu l'occasion de travailler dans les hôpitaux du centre, j'ai choisi de rester à Nord précisément pour cet esprit-là. Et c'est vrai aussi que nous avons une magnifique Pinède, mais que nous manquons de commerce et que si ce marché pouvait s'installer, si ce n'est qu'une fois par mois, ça serait formidable. Ça a beaucoup, beaucoup plu aux patients, aux soignants, bien sûr, à tous les personnels, mais les patients, ce marché-là leur a fait énormément de bien. Alors, les ateliers d'écriture, ce sont des ateliers d'écriture créative qui sont ouverts à tous, qui sont gratuits, hebdomadaires, avec aucune prétention littéraire, si ce n'est que de se retrouver autour d'une grande table et d'écrire ensemble à partir d'une thématique de consignes données. Alors, viennent des patients, bien sûr, des proches de patients, mais viennent aussi des personnels. Et c'est extraordinaire de pouvoir avoir des soignants et des patients autour de cette table une fois par semaine.
Quand vous parlez de consignes, c'est des thématiques?
Voilà, on choisit une thématique qui est en relation quand même avec l'hôpital. Ça peut être la souffrance, le soin, la mort. Donc on travaille sur ces thématiques-là. Il y a une grande liberté, c'est-à-dire que la personne peut choisir de suivre la consigne ou pas. Elle choisit aussi son style, son mode d'écriture. Mais ce qui est très intéressant, ce que je trouve intéressant dans l'écriture par rapport à ce qui pourrait être un groupe de parole, par exemple, dans un groupe de parole, on est dans la spontanéité, on est dans l'échange direct. Mais dans l'écriture, on est dans du réflexif. On prend le temps, on revient sur ce qu'on a écrit. Cette réflexion, elle permet de prendre la distance et de dépassionner parfois ce qu'on a à dire et à partager.
Est-ce qu'on peut voir ça comme une thérapie également ?
Personnellement, je pense que oui. Mais c'est un grand mot. Le mot thérapie, ça dépend aussi de ce qu'on met derrière. Je pense surtout que ça accompagne formidablement bien toutes les activités de soins qui sont mises en place dans l'hôpital, que ce soit encore une fois pour les soignants ou pour les patients.
Il vous est arrivé, j'imagine, de peut-être écrire à la place de certains patients qui ne pouvaient plus, par exemple, ou ne peut-être...
Alors ça, c'est autre chose, c'est en lien avec ma fonction d'aumônier. D'accord. C'est vrai que je rends visite aux patients dans leur chambre et il m'arrive effectivement de rencontrer des patients qui veulent écrire et qui n'ont pas la possibilité de le faire et qui me demandent de le faire pour eux, oui.
Monsieur Halimi, Gilles Halimi, je rappelle que vous êtes directeur de l'Hôpital Nord. Ce genre d'initiative, comme les ateliers d'écriture, on en trouve beaucoup au sein de l'Hôpital Nord pour permettre de faire aussi des liens entre soignants et patients autour de thèmes et de pratiques, surtout, différentes du quotidien, de ce qu'on peut attendre primairement, disons, de l'hôpital.
Là, vous faites allusion donc aux activités qu'on pourrait qualifier de paracliniques ou para-hospitalières. Bon, à mon goût, il y en a pas assez, mais effectivement, le peu qui s'y trouve présente un intérêt et il faut effectivement développer toutes ces démarches, toutes ces approches d'accompagnement qui peuvent permettre de compléter la prise en charge qui est réalisée au niveau clinique. Vous avez cité... l'exemple donc de la cellule de soutien, hein, qui est un exemple inédit au niveau de l'établissement, APHM, qui depuis donc a été dupliqué à d'autres hôpitaux. Bon, c'est un groupe de personnes qui, de manière très volontariste, se sont dit à un moment donné, en liaison avec le directeur des soins, qu'il était important de pouvoir... prendre en charge les personnels dès lors que ces personnels se trouvaient dans une situation de difficulté ou de crise, et qu'il était important de pouvoir les accompagner pour les aider donc à retrouver une situation à peu près normale. C'est un premier exemple. Vous avez cité également l'exemple du centre Oasis, hein, qui est une structure regroupée de personnes bénévoles qui font ça en dehors de leur temps de travail et qui se mettent au service des personnels, qui peuvent présenter là aussi des situations de crise ou d'épuisement professionnel et qui peuvent mériter d'être accompagnés à un moment donné. Donc autant d'exemples qui permettent effectivement de pouvoir abonder dans ce sens et faire en sorte qu'on puisse développer ce type de technique, ce type de méthode d'accompagnement dans l'intérêt de nos patients d'une part et de nos personnels d'autre part, puisque les deux sont complémentaires.
Justement, Madame Toamy, vous connaissez l'association Oasis ?
Ah oui, je la fréquente assidûment. J'ai toujours trouvé extraordinaire que dans un hôpital public, un tel lieu puisse exister. Je trouve ça fantastique. Cette proposition de soins donc complémentaires, où on prend le temps, où il y a de l'écoute, où il y a de la belle musique, et où il y a des praticiens qui viennent donner. Il y a une dimension humaine dans cet espace qui est extraordinaire, et là aussi c'est un espace aussi ouvert à la fois au personnel et aux patients.
Nous avions pu rencontrer une des bénévoles de l'association Oasis, donc du coup association qui propose des séances de yoga, de shiatsu dans des endroits, comme elle le disait, qui sont, on ne se croirait pas à l'hôpital, et qui sont des séances disponibles à la demande, qui commencent du coup par capillarité à être proposées aux patients et dont le personnel médical commence à se rendre compte des effets positifs, Nadia Toamy.
Oui, absolument. Et je pense que ça fait un petit moment, j'ai eu l'occasion d'interviewer l'ancien directeur des soins, M. Ribière, qui m'a longuement parlé de ces initiatives qui ont été prises il y a quelques années déjà. Peut-être que M. Halimi pourra nous donner plus de détails. D'introduire par exemple la notion de la sophrologie dans les salles de réanimation, de mieux préparer les enfants pour l'anesthésie. Donc il y a dans cet hôpital une prise de conscience de la nécessité d'accompagner les personnes aussi dans la douceur, dans l'humain, et pas seulement dans le technique, technologique, médical, on va dire, pur.
J'imagine qu'en votre qualité également d'aumônière, c'est quelque chose de très important, voire de fondamental.
Tout à fait. Bon, les aumôneries existent à l'hôpital depuis fort longtemps. Elles sont encadrées par la loi de 1905. Cette loi rend obligatoire pour l'État de faciliter l'accès au culte pour les personnes qui le souhaitent, dans les espaces fermés que sont la prison, l'armée et les hôpitaux. Et là, la présence des aumôniers, bon, nous sommes quatre cultes représentés à l'hôpital Nord, chrétiens, musulmans, israélites et bouddhistes. Elle est essentielle puisque nous nous inscrivons tout d'abord dans l'humain. Avant, nous sommes certes des ministres du culte, comme on dit, nous sommes des représentants religieux, nous avons une fonction religieuse, mais la première de nos démarches, la première de nos fonctions, c'est l'humain, l'accompagnement dans l'humain, dans l'amitié, éventuellement, et à la demande de la personne spirituellement, et éventuellement aussi, toujours à la demande de la personne ou de ses proches, religieusement, donc avec des actes rituels cette fois-ci qui sont posés.
Nous allons rentrer un peu plus dans le détail avec, pour décrire un peu votre travail. Au final, Madame Toamy, vous avez parlé, Monsieur Halimi, de la cellule d'écoute, la cellule de soutien. Nous avons rencontré justement à cette occasion Madame Dominique Lemoine, qui est une des deux personnes en charge de cette cellule d'écoute. Nous l'avons rencontrée hier dans son joli petit bureau bien agréable qui sent bon l'encens. On s'y sentait bien et on s'est même un peu confié. On écoute Dominique Lemoine.
Je m'appelle Dominique Lemoine, je suis de formation infirmière anesthésiste et je travaille à la cellule d'écoute et de soutien de l'hôpital Nord depuis 3 ans. Alors cette cellule d'écoute, c'est un espace de temps et un lieu et un espace donné à tous les personnels de la science publique des hôpitaux de Marseille, de l'hôpital Nord ou même des autres sites, pour que tous les gens viennent déposer quelque chose, une difficulté passagère, professionnelle, personnelle, les deux, etc. C'est un endroit dédié pour tous les personnels, soignants, techniques, enfin tous les personnels de la PHM, de l'hôpital Nord en tout cas. Alors l'histoire, elle vient un peu, c'est un peu de ma faute, on va dire, si on peut dire. En fait, dans mon parcours, je suis infirmière anesthésiste, moi j'ai travaillé 25 ans dans les services de réanimation de polytraumatisés ici. Et dans mon parcours, en fait, j'ai fait un parcours... si vous voulez, à la fac, et j'ai travaillé en sciences de l'éducation, et j'ai fait deux masters, un et deux, sur l'épuisement des soignants. Donc ça a été mon thème de recherche quand j'étais en master. Et quand j'ai fini ce master en 2005 à peu près, j'ai dit à mon directeur de soins, il faut qu'on s'occupe des soignants. Je présentais déjà, dès les années 2000 en fait, je m'occupe de ce sujet en disant il faut s'occuper des soignants. Les soignants s'occupent des patients, il faut s'occuper des soignants. C'était vraiment mon leitmotiv. Donc ça a été très long, la mise en place. Donc on a mis en place en 2006 un groupe de travail avec le directeur de soins, M. Ribière à l'époque, qu'il faut nommer parce que c'est vraiment de lui que c'est parti. Et on a fait une enquête longitudinale de 300 soignants en 2006, où là, on a essayé de mesurer de façon scientifique le ressenti qu'on avait en 2006, qui était déjà un petit peu tendu. Et on s'est aperçu, en fait, dans une population que de l'hôpital Nord, qui avait à peu près 9% de burn-out et 19% de gens avec des syndromes dépressifs dans les soignants. Là, on n'avait fait que les paramédicaux. Et donc, à la suite de cette étude, moi, je lui avais dit « j'aimerais bien ». Qu'on mette en place quelque chose derrière. C'est-à-dire faire une étude pour faire une étude, c'est jamais... Enfin, les gens sont contents d'être... D'ailleurs, il y a eu 78% de retour de questionnaire, ce qui veut dire que les gens étaient très contents qu'on s'occupe d'eux. D'ailleurs, ils disaient « enfin, on s'occupe de nous ». Et en fait, il y a eu beaucoup de retours de questionnaire et on a mis en place la cellule d'écoute, mais alors de façon complètement empirique, de 2007 jusqu'à 2012, on a bricolé, faut le dire. C'était très empirique, c'est-à-dire qu'on avait pris le bureau des infirmiers douleurs à l'époque, d'où la naissance de l'Oasis avec, puisqu'on a travaillé avec eux ensuite. On allait un peu squatter leur bureau, on voyait les gens en dehors de nos heures, on travaillait déjà à temps plein avec mon collègue psychologue, puis ma collègue Laure Kianès qui travaille avec moi est venue me rejoindre. On voyait les gens un peu, on les testait sur l'échelle, parce qu'il y a une échelle d'épuisement professionnel, on travaillait sur le burn-out, etc. Donc on faisait de façon un peu empirique pendant 4-5 ans. On a essayé de trouver un local avec M. Ribière et M. Halimi. On a enfin trouvé ce local qu'on n'avait pas au début. Et si vous voulez, quand on reprend le fil de l'actualité, dans les années 2008, 2009, 2010, pour vous rappeler de tout ce qui s'est passé à France Télécom, etc. Donc les textes de loi sur la santé mentale au travail sont tombés les uns derrière les autres. Et c'est arrivé jusqu'en 2012, où ils demandent des équipes pluridisciplinaires de santé au travail. Voilà. Et du coup, dans le cadre de ces équipes et dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, qui sont maintenant malheureusement très à la mode, il est recommandé par les textes, hein, depuis 2014 notamment, d'avoir des endroits, des moments d'écoute pour les personnels dans les entreprises, pas qu'à l'hôpital. En fait, on était un petit peu avant-gardiste, et je peux le dire, vraiment. Tous, hein, toute l'équipe a été avant-gardiste, et du coup, on a monté ça. Et ça, depuis 2012, il y a un poste et demi dédié à l'écoute sur l'hôpital Nord, un poste d'infirmière et un poste de psychologue. Voilà. J'ai soigné des patients pendant plus de 30 ans. Et j'ai fait quand même 25 ans de réanimation chez les polytraumas, donc voilà. Et ben c'est plus difficile, je trouve, que de soigner des soignants que de soigner des patients. Et pourtant, c'était pas des patients faciles. C'est très lourd d'accepter de voir que nos confrères, qu'on est tous impactés, touchés par le travail. Parce qu'un soignant s'occupe des autres. Hein. Il est formaté comme ça, de façon complètement même inconsciente. Un soignant... Si vous voulez, il fait sa profession pour s'occuper des autres. Donc il s'occupe assez peu de lui. Et d'ailleurs, on a beaucoup de mal à ce que les gens viennent s'occuper d'eux. C'est compliqué. C'est pas facile pour eux de faire la démarche, de se dire, en fait, j'en peux plus, je n'y arrive plus. En fait, la première chose que disent les gens quand ils arrivent ici, c'est j'aime mon travail, mais je n'y arrive plus. C'est vraiment les deux mots-clés qui sortent. J'aime mon travail. C'est vraiment ce que... Ce sont toujours des gens très engagés, hein, enfin, quand c'est des burn-out notamment, hein. Donc les gens aiment leur travail, mais n'arrivent plus dans les conditions actuelles, ou pour, parce qu'eux, ils ont une difficulté, n'arrivent plus à travailler. Et c'est ce qui les fait souffrir, en fait. Donc, avant, c'était une pathologie qui était réservée plutôt aux professions d'aide. Enfin, on disait aux aidants et aux gens qui sont dans la relation humaine. Donc c'était plutôt tous les gens dans la justice, dans l'enseignement, les soignants, hein, puisque les premiers cas de burn-out ont été décrits dans les années 75 par Freudenberger. Il s'en est aperçu chez les soignants, parce que les gens n'arrivaient plus, parce que c'est des gens qui sont dans l'aide à l'autre. Donc les éducateurs, les soignants, etc., même dans la justice, on est là-dedans. Et donc les gens n'arrivent plus à aider les autres, en fait, c'est ça. Et en fait, maintenant, le burn-out, avec la pression qu'il y a au travail actuellement, depuis la mondialisation, etc., c'est moi, j'ai vraiment vu ça avec vraiment le corollaire, n'arrive plus à s'occuper des autres, et avec la pression, les gens n'arrivent plus à travailler.
Retour dans le bocal de Radio Grenouille pour les 50 ans de l'hôpital Nord. Nadia Touami, vous vouliez peut-être réagir au propos de Dominique Lemoine qui s'occupe de la cellule d'écoute pour les personnels, les soignants des soignants à l'hôpital Nord.
Oui, c'est vrai que nous, au Monnier, nous sommes là pour les patients et pour leurs proches. Et dans les moments douloureux, dans les moments de joie, mais dans les moments douloureux, on focalise surtout sur eux. Et on oublie parfois que cette peine peut être partagée effectivement par les soignants. Et ces soignants, ils peuvent effectivement avoir des activités, des attitudes qui vont leur permettre d'activer la soupape. Peut-être pas toujours. Et nous sommes humains, hein, nous ne sommes pas toujours au top et on n'est pas toujours capable de prendre la distance nécessaire. Et c'est vrai que moi, quand je vais, par exemple, en réanimation pédiatrique, à la rencontre d'un enfant en fin de vie ou décédé de sa famille, je vais faire ce que j'ai à faire et derrière moi, je vais laisser des aides-soignantes, des infirmières, parfois des médecins, qui vont se cacher dans un coin pour pleurer. Ils ont passé des semaines avec cet enfant, ils se sont attachés à lui et c'est tout naturellement qu'ils vont avoir du chagrin. Et ce qui est bien, c'est que dans ces cas-là, effectivement, nous avons deux personnes, Laure et Dominique, qui sont à l'hôpital et qui ont la possibilité d'aller dire bonjour, de prendre un café avec les personnes, de les écouter sur leur peine. Je donne un exemple, hein, il y en a bien d'autres. Hein, voilà.
Justement, quelle est la position, comment se positionne l'aumônier, comment se positionne l'aumônier entre l'aspect religieux des choses, voire... Je pense que vous préférez peut-être le terme de spirituel, et le personnel soignant.
Alors, à mon sens, la spiritualité et la religion sont deux choses différentes. Hein. Donc, la première fonction de l'aumônier, elle est religieuse. Nous représentons un culte et nous portons des actes de culte, des actes rituels correspondant au culte que nous représentons. Mais la demande des familles, elle ne va pas toujours dans le sens de la religiosité ou du culte. Ça peut être une demande, effectivement... d'ordre spirituel, la personne elle n'est pas forcément pratiquante d'une religion, elle est à l'hôpital, elle se pose des questions d'ordre métaphysique et elle veut pouvoir avoir la possibilité d'échanger sur ces questions. Et il y a surtout, je dirais, l'accompagnement humain et amical. C'est une présence, l'aumônier n'est pas dans le faire, hein, il est dans l'être, c'est être là.
Vous touchez au plus profond au final, peut-être de ces personnes. Des fois, j'imagine que ça ne passe même pas par la parole.
Très souvent, c'est très souvent. C'est pour ça que je parle d'être et non de faire, parce que oui, il y a l'écoute, mais c'est très souvent un partage de silence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quelquefois, les familles reviennent quelques semaines après nous voir, on nous appelle au téléphone, et nous disent que précisément, ce qu'ils ont apprécié dans notre présence, au moment où ils en avaient le plus besoin, ça n'est pas ce que l'on a fait, ni ce que l'on a dit, ni ce qu'on a été capable d'écouter, de recevoir, mais simplement le fait d'être à un moment donné un point de stabilité.
Je voudrais vous faire réagir également à ce qu'on a entendu en début d'émission, à ce que Nicole Tabet nous expliquait, qu'elle constatait que le religieux était beaucoup plus présent aujourd'hui qu'il n'y a 20 ans, par exemple, dans la société de manière générale, et elle le disait aussi pour l'hôpital. Est-ce que c'est votre avis ?
Je pense que sur la question de la religion, effectivement, notre société s'est beaucoup transformée, mais il y a 20 ans, seul le culte chrétien et catholique était présent. Aujourd'hui, plusieurs cultes sont représentés. Je pense qu'elle est là, la différence.
Merci à tous les deux pour votre présence et d'être venu présenter vos différentes activités dans le cadre de ces 50 ans de l'Hôpital Nord. Merci beaucoup, Monsieur Alimi.
Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup, Nadia Touami. C'était une émission consacrant les 50 ans de l'Hôpital Nord sur Radio Grenouille, une émission bien évidemment à retrouver en podcast sur radiogrenouille.com. Restez connectés car toute la journée vous entendrez des voix de soignants et de soignés sur Radio Grenouille. Bonne journée à toutes et tous, à bientôt.